Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique, un nouvel épisode de ce podcast consacré à la littérature érotique. Alors cette semaine, je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle I am Esclave des Glaces. I am Esclave des Glaces, c'est le troisième tome d'une série qui au départ est écrite par Gaspard de la Noce et ce troisième volet, eh bien Gaspard de la Noce a confié son personnage aux soins d'un autre auteur, à mon avis un comparse à lui, qui s'appelle Pierre Charmoz. Alors I am, l'épisode 1 c'est I am au Caire, l'épisode 2 c'est I am à Istanbul, vous pouvez retrouver les lectures que j'en ai faites sur mon site charlie-liveshow.com. Tous ces textes sont publiés aux éditions Sexy by la Musardine. Sexy by la Musardine, c'est la partie édition numérique de la Musardine. Donc pour retrouver ces livres, c'est l'adresse du site internet, c'est sexy-musardine.com. Alors dans le premier tome, I am au Caire, on découvrait un petit peu l'histoire d'Ayem et comment elle était devenue, suite à une éducation un petit peu particulière dans un pensionnat en Égypte, la star du putana. Dans l'épisode 2, I am à Istanbul, eh bien, on découvrait comment elle mettait le feu à Istanbul, à toute une équipe de foot. Et on découvrait aussi que son mari n'était pas en reste puisque lui adorait se faire soumettre et se faire enculer. Eh bien, dans la troisième partie, Ayam et son mari, Camille, sont invités par un prince, par un cheikh, à faire un voyage. Ils vont se retrouver au Groenland et en fait, ce voyage se termine en piège sexuel. Alors, je vais sans plus attendre vous lire quelques extraits pour vous faire découvrir tout ça. Et vous allez voir, Pierre Charmoz ne s'est pas gêné pour lui aussi malmener le personnage de Ayam au départ inventé par Gaspard de la Noce. Alors on va commencer par le chapitre 2 en fait. Voilà, je vous laisserai découvrir l'introduction en vous offrant vous-même le livre en allant sur le site sexy-lamusardine.com. I am esclave des glaces, premier extrait, c'est parti, c'est le deuxième chapitre, la caverne de cristal. À peine débarqué, les passagers du Falcon sont invités à monter dans un hélicoptère Euromil Mi-38. Le prince Akram retient Camille et Abdel. « Et désolé Camille, vous ne faites plus partie de mes invités. Vous rentrez à Paris, à vos frais, évidemment. Mais je vous laisse votre godemiché sur pattes. Rassurez-vous, Ayam est en de très bonnes mains et vous vous consolerez avec Abdel. » Ayam assiste sans broncher au déshonneur conjugal. Le mari, d'ailleurs, ne semble pas spécialement outragé. « À vos ordres, prince, je vais peaufiner notre futur contrat qui sera, j'en suis sûr, profitable aux deux parties. Venez, Abdel, nous allons nous renseigner sur les possibilités de viol, de vol vers l'Europe. » Les deux hommes s'éloignent sans un regard pour Ayam, maintenu solidement, mine de rien, par les bras soyeux mais musclés de Badra. « Camille, parvient-elle à murmurer, fais attention à toi. » L'Euromil Mi-38, un hélicoptère de fabrication russe, est presque aussi spacieux que le Falcon. Les deux turbines Pratt et Whitney bracelèrent avec une puissance prométhéenne. En quelques minutes, l'aéroport de Narsarsuaq n'est plus qu'une carte postale collée sur le hublot. « Ayam, ne vous scandalisez pas du traitement infligé à votre mari. Ce n'est qu'un jeu, comme la guerre. Sur le champ de bataille, il ne peut y avoir qu'un vainqueur. » Le prince Akram s'est assis à côté de la belle copte. Sa main repose sur la cuisse de sa captive. Admirez ces glaciers se précipitant vers la mer. Un atelier d'iceberg, il ne manque plus que les ouvriers. Sur ces paroles énigmatiques, le prince détourne la tête et s'adresse en arabe à Badra qui se rend à l'arrière de la cabine. Souhaitez-vous une boisson? Un whisky? Badra, deux Glengarioch s'il te plaît, du 12 ans d'âge, ma chère. Une boisson ambrée presque aussi délicieuse que le miel de Badra. Auquel tu as goûté, je le sais. La saveur de Badra. Une onde de chaleur traverse Ayam au souvenir du cul ambré. Une soif neuve. Le prince part d'un rire léger. Ha ha, vous êtes conquise par ma belle écuyère. Elle sait dresser les pouliches les plus rebelles qui viennent lui lécher la main, le fouet ou le cul. Ayem fait tourner le breuvage et les glaçons dans le verre. Elle reste muette. Que pourrait-elle dire? Demander où l'on se rend? Cela ne l'intéresse guère. Ce que le prince compte faire d'elle? Elle en a déjà eu un aperçu qui n'avait rien de désagréable. N'est-elle pas la star du putanat de Monsieur Max? La docile collégienne de Madame Farah? Elle retrouve si facilement le chemin de la docilité heureuse. En même temps, elle souhaite venger l'affront fait à Camille, son mari tout de même. Avec naturel, le prince accrame ses débraguettés. Son instrument, majestueux, se dresse 300 mètres au-dessus des glaces. « Oh ! Un ours blanc, là, qui dérive !» Badra pointe le doigt. Sur un large morceau de glace, une peluche blanche se tient allongée, ignorant son destin. « N'est-il pas mignon ?» Le prince sourit. « Mignon ? Tu veux rire ? C'est le fauve le plus dangereux de la terre. Impossible à domestiquer, celui-là. Pas comme les parisiennes. » Akram s'empare de la chevelure de jet et ploie la tête de sa captive à bonne hauteur. Le whisky se répand sur la moquette. « La maladroite ! Tu la fouetteras ce soir, Badra !» Ayam est envahie merveilleusement. Elle suffoque. Sa bouche se fait satin humide pour accueillir le miracle de chair. « Ah, la bonne pute ! Qu'elle suce bien ! Elle fera merveille dans les bordels de Jeddah !» Cet accès de vulgarité, Ayam le sait, a pour but de la soumettre au mal dominant. Elle s'applique à pomper le vie vibrant, qui ne tarde pas à se répandre. Badra vient partager la semence princière. Les deux bouches féminines s'accolent en un long baiser aux saveurs de miel et d'amande. Des aides nanortaliques dans 10 minutes. Le pilote survole la petite ville, située à la pointe sud du Groenland. À l'arrière-plan, des montagnes aux parois impressionnantes. Mais plus stupéfiante, surgit une immense cathédrale de verre vers laquelle l'hélicoptère se précipite. Ayam ferme les yeux. Elle a poussé un cri, bref, lui semble-t-il. Un aveu de faiblesse qui émeut le prince. Akram prend la main de sa captive dans la sienne. « Tu ne crains rien, petite putain, je suis là !» Et il l'embrasse tendrement, avec beaucoup de salive. Au sol, Ayam prend la mesure de ce véritable temple à la technologie. Des arches fines, titane et polycarbonate, précise le prince, soutiennent des plaques de verre. L'hélicoptère, pourtant l'un des plus grands du monde, semble un minuscule insecte digéré par le ventre adamantin. « Voici mon palais d'été, Belayam. Quand je suffoque à Jeddah, je viens me rafraîchir à Nanortalik. C'est l'avantage de l'argent. On vit dans un espace et dans un temps sans limite. » Un guépard venu de nulle part fonce vers les trois passagers. Il heurte violemment Akram, qui roule au sol avec le fauve. Ayam recule, effrayé. « Amina, un peu de retenue, je te prie !» La bête ronronne et donne de grands coups de langue sur le visage de son maître qui se relève. « Amina, je te présente Ayem. Sois douce avec elle. Ne déchire pas sa peau de velours. Nous en serions inconsolables. » L'animal vient flairer Ayem, frotte sa tête contre son ventre en signe d'allégeance. « Eh bien, maintenant que vous avez fait connaissance, Badra, tu peux emmener notre invité à ses appartements ?» Le prince se dirige vers un bâtiment construit près de l'entrée du monstrueux hangar de verre. Badra fait signe à Ayem de la suivre, ainsi qu'à Amina. Après avoir remonté le hangar sur toute sa longueur, elles poursuivent leur chemin, au cœur du glacier contre lequel le bâtiment titanesque a été édifié. Badra sourit à la jeune copte. « Tu vas découvrir la plus insolite construction du monde. Peu de gens sont autorisés à y pénétrer. » Encore moins à y séjourner. Les deux femmes, suivies du guépard, s'engagent sous une voûte de glace d'où perlent des gouttes d'eau récupérées dans des vasques par un savant réseau de tubulures. La température reste agréable, mais Ayem ne peut s'empêcher de frissonner. Elle resserre les lambeaux de son corsage en piètre état. Badra la frappe sur les mains. « Tes seins doivent rester libres, ordre du prince !» Des hommes en tenue de travail les croisent, indifférents à la présence de deux jolies femmes, l'une dépoitraillée, l'autre vêtue d'un short moulant aux entrelacs de brillants. Ce sont les employés du prince, ils ne nous voient pas. Si un de ces chiens osait porter le regard sur nous, le prince le ferait déposer sur l'Inlandsis, à 1000 kilomètres de toute habitation. Crois-moi, cela calme les ardeurs des plus enragés. À une bifurcation, elles prennent le couloir de droite. Elle débouche sur une sorte de hall dont la voûte opaline les surplombe à plus de 20 mètres. Le sol de verre laisse place à de somptueux tapis. De nombreuses portes de verre granité en demi-cercle. Badra applique la paume de la main droite sur une plaque d'identification. Une porte s'ouvre sans bruit. Badra fait entrer Ayam dans la pièce où trône une cage de verre. Badra pousse la captive dans la cage. Ayam tombe au sol où Badra la rejoint pour une joute sauvage, tandis que le fauve, resté à l'extérieur, gronde et feule. Badra piétine littéralement le corps de sa victime, sans la marquer toutefois. Le prince aime les épidermes sans tache. Elle se vautre sur elle, déchire les derniers lambeaux du corsage, met en pièces le tailleur de fin tissu, déchire à coups de dents la dentelle du string. Ayam est nue, soumise. « Relève-toi, putain !» Badra s'empare d'un bras et le glisse dans un bracelet de contrainte fixé au plafond de verre, puis de même pour l'autre. Ayam est écartelé, en croix, sans défense. Badra s'approche de sa victime. Elle sourit. « Alors, petit Ayam, tu veux goûter à la belle Badra ? Tu vas d'abord en baver un peu. » S'emparant d'un martinet, Badra cingle le ventre somptueux. Un trait de feu pour l'allier. Qui gémit ? Tais-toi, ou plutôt, compte. Et Ayam compte les coups qui pleuvent sur son corps, devant, derrière, en haut, en bas, des éclairs de douleur et un feu central qui la consume. Le plaisir monte, elle ne peut rien lui opposer. Badra, fine observatrice, abandonne l'instrument de torture, s'agenouille et colle sa bouche au sexe épilé de la fouettée. Tu mouilles, salope! « Je vais t'apprendre à jouir sans mon autorisation. » Puis Badra se redresse. Les deux jeunes femmes sont d'une identique stature. D'une main, Badra fouille la douce caverne d'amour. De l'autre, elle écarte les lèvres de l'attaché. Sort ta langue. La petite excroissance de chair humide vient timidement à l'orée de la denture. « Plus loin, putain, le plus loin possible. » Badra approche sa bouche, mord la langue offerte qu'elle mâche comme un morceau de viande. Ayam s'affole, et s'il lui prenait la fantaisie de lui couper la langue. Mais non, sa maîtresse cesse sa mastication et crache dans la bouche pantelante. « Ce sera ton repas, ma belle. » Et Badra, suivi de la guéparde, quitte la pièce. Voilà, c'était le premier extrait de Ayam, esclave des glaces, qui se retrouve totalement prisonnière d'une espèce de cathédrale monstrueuse de verre au milieu du Groenland, à la merci à la fois du prince Akram et de sa geôlière Badra. Alors, vous allez voir qu'avec sa geôlière, au final, la relation est plutôt sympathique. Je vais vous lire un deuxième extrait, c'est le chapitre 4, qui s'appelle « Escalade féminine ». Le prince Akram, mollement étendu sur un divan recouvert d'une magnifique peau d'ours polaire, qu'il aurait tué lui-même au poignard selon la légende, flatte d'une main l'échine de la guéparde, de l'autre la croupe miraculeuse d'Ayam. Les deux bêtes ronronnent et se lovent contre leur maître. « Que dis-tu de mon organisation industrielle, cher Ayam ?»« Efficace, prince, même si ces pauvres femmes... » Le prince balaie la réprobation d'un vague geste de la main. Pauvre, reste à voir, avec tout l'argent qu'elle me coûte. Comme tous les riches, le prince est d'une rare avarice. Pendant sa semaine de travaux forcés, 12 heures par jour avec une pause d'une demi-heure le midi pour avaler l'infecte brouet, Ayam a pu recueillir les confidences de ses co-détenus, malgré l'interdiction de parole. Carmen, une Espagnole à la nature sauvage et rebelle, lui a expliqué la méthode Akram. Promettre un pont d'or à des couples en difficulté financière, sans attache familiale, sélectionnés aux quatre coins du monde. À leur arrivée au Groenland, les couples sont séparés. Les hommes étant destinés aux travaux pénibles d'extraction et de découpe, les femmes au conditionnement. Et une véritable discipline de caserne, sous la férule peu aimable de Gertrude. Carmen a vu disparaître 3 de ses compagnes. L'une, épuisée, n'a même pas réagi au fouet de Gertrude. Elle a été évacuée par la contre-maîtresse, tirée par les cheveux. Évanouie ou morte, ses compagnes n'ont pu le savoir. Les deux autres, dont Marie, la dernière, ont été punies pour rébellion répétée. L'inlandsis. Ce simple mot terrifie les filles, qui sont prêtes à endurer les pires tortures pour échapper au grand désert blanc. Carmen, fière et rebelle comme toutes les filles d'Andalousie, a laissé entendre à Hayem que la révolte était pour bientôt. « Tais-toi, sur ta vie !» Quand Badra est venue ce matin chercher la prisonnière dans sa cage de verre, elle s'est déshabillée pour frotter son corps dur contre les douces formes de l'endormie. « Graecia capta ferum, victorem sepit. » La Grèce conquise conquit son farouche vainqueur. Oh oui, la léoparde du désert n'est plus que tendre antilope entre les bras parfumés à la sueur prolétaire de la star du Putana. Car vous l'avez compris, la cruelle Badra ne peut fondre qu'aux douceurs féminines. Elle voue à la race masculine une exécration absolue, presque sacrée, à l'exception notable de son maître, le prince Akram, qui la chevauche parfois pour le seul plaisir de contrarier son inclination naturelle. Hayem a su gagner l'amour de sa geôlière, qui, outre ses sucs intimes, lui lècherait les gerçures des mains si elle le lui demandait. Donc ce matin, Badra et Hayem ont roulé l'une sur l'autre comme l'estrand d'une grève tiède. Puis Badra, habille-toi de ces atours de soie et de faille. Mon maître te veut parer, belle esclave, à ses pieds. À dire vrai, la soie est synthétique et minimale, et la faille, un vague réseau de lanières moirées mettant en relief les charmes naturels de la copte. « Tu es encore plus nue ainsi, mon amour, » susurre la féline conquise. Et c'est ainsi qu'Hayem quitte sans regret, mais non sans penser pour ses co-détenus, l'atelier d'ensachement des glaçons 100% Groenland de la marque Akram, pour retrouver le maître dans son décor bédouin, au cœur le plus secret de la caverne de glace. Badra garde l'entrée, les bras croisés sur son bustier de cuir noir, la motte soulignée par les incrustations de diamants du short minimal. Akram, tout en caressant ses fauvettes, adresse à sa guerrière des regards complices. Mais le prince, imbu de lui-même et de sa noblesse supposée, a-t-il perçu dans les yeux de Badra l'éclair froid de la jalousie ? Peu lui chaud. Il agrafe au cou de sa prisonnière un collier orné de pointes de métal, relié à la même chaîne que celui de la guéparde. En tirant sur la laisse unique, il fait se cabrer les deux femelles qui roulent l'une sur l'autre en mêlée. Et en riant, il se jette entre elles, forçant l'humaine à ployer les genoux, à cambrer la croupe. Son orifice préféré est à la bonne hauteur. Il y présente un vis raide, long et lisse, qui se loge sans effort dans les fronces palpitantes. « Ton cul est une merveilleuse machine, ô reine du Putana ! Il absorbe mon vie comme la lumière les ténèbres de la nuit. Pas trop vite, je t'en prie. Je veux rester en toi au moins une éternité. » La guéparde a posé son mufle au creux du dos de l'esclave. Elle fixe de ses yeux dorés les fulminances qui incendient le visage de Badra. Elle a compris. L'après-midi, Badra a obtenu l'autorisation princière d'emmener la captive se dégourdir les jambes. La fille du désert est une passionnée d'escalade, qu'elle a pratiquée intensément au cours de sa formation de commando, puis par pur plaisir de danser avec le vide. Or, l'emplacement choisi par le prince Akram pour implanter son usine à glaçons est cerné de hautes falaises propices aux exercices les plus vertigineux. L'hélicoptère dépose les deux filles à quelques tours de rotor de la petite ville de Nanortalik, sur l'île de Semersok, au pied d'une falaise lisse et verticale. Hayem a pratiqué également le noble art de la grimpe. Lorsqu'elle était étudiante à Paris, elle s'était inscrite à une salle d'escalade qu'elle fréquentait régulièrement et où elle recrutait ses amants d'une nuit. Elle aimait les regards des hommes lorsqu'elle devait, par un grand écart périlleux, quitter une prise minuscule pour un graton infime. Elle a donc accepté avec joie de suivre Badra dans son aventure verticale, même si, au pied du mur, elle se sent minuscule comme une mouche. « Ne t'inquiète pas, ô aimé, tu seras assuré par la corde, il n'y a aucun risque. » Badra a remplacé ses éternelles bottes noires par des chaussons d'escalade. Elle ajuste sur sa seconde de cordée le harnais de sécurité, vérifie le sien qui fait remonter les bords du short à la limite des lèvres du sexe glabre. Elle déroule les 60 mètres de corde qui la relie à Hayem, vérifie l'invraisemblable quincaillerie qui sonnaille à son buste, coinceur, friends, et se jette avec une énergie maîtrisée sur la paroi. Elle s'élève avec régularité, trouvant la bonne prise de pied ou de main, pratiquant le grand écart, le pied-main, la prise de doigt avec l'agilité d'un singe. Hayem, qui l'assure, suit la corde qui se déroule en souplesse, sans à-coups. Tout est prévu au millimètre par l'ex-commando. À un moment, Badra, qui a réussi à poser deux doigts sur une minuscule réglette, tracte son corps sur cet appui incertain, l'autre main prête à cramponner le rebord d'une fissure diagonale. Mais la fissure est bouchée et sa lèvre inférieure trop arrondie pour espérer une prise suffisante à un rétablissement du pied droit sur la réglette. Un mètre plus haut, on devine une écaille franche. « Donne du mou !» ordonne Badra à sa coéquipière. Elle redescend de 2 mètres sur un appui confortable, examine 2 secondes le passage et se lance. Profitant de l'élan, elle saute littéralement sur l'écaille, qu'elle croche au moment précis où son pied droit prend prise sur la réglette, là où, une fraction de seconde avant, elle avait ses 2 doigts. 3 mètres au-dessus, après une dulfeur classique, une plateforme un peu étroite, et c'est le relais. Tout cela a duré moins d'une minute. « Au relais, vaché, à toi !» Et Ayem s'élève, retrouve les gestes d'autrefois, même si la souplesse est moindre. Au passage clé, Badra lui propose une aide qu'Ayem accepte volontiers, et c'est plus ou moins tracté qu'elle rejoint sa première de cordée. « Bravo ma chérie, tu te débrouilles comme un chef !» Badra embrasse la belle Ayem, lui dévore la langue tout en récupérant du bustier de sa seconde les coinceurs, friends et autres dégaines. Cette fille est vraiment surprenante. On dirait qu'elle a 2 cerveaux, un logé dans le crâne, l'autre au creux du sexe. Les longueurs s'enchaînent, chacune apportant son lot de surprises, sa difficulté cachée, son passage secret. Mais Badra est une conquérante. Rien ne lui résiste. Oh, si, un minuscule graton auquel elle a confié tout son poids et qui casse net, la précipitant dans le vide. Le friend, 7 mètres plus bas, retiendra-t-il les 800 kilos dynamiques du corps en chute ? Ayem hésite une seconde. Elle pourrait profiter de l'instant pour couper la corde. Et adieu, cruel Badra. Mais la raison l'emporte. Elle avale le maximum de cordes pour limiter l'amplitude de la chute, puis redonne du mou pour amortir le choc sur le friend. Manœuvre impeccable. Le coinceur a tenu et Badra lance à sa coéquipière un baiser. « Bravo, ma belle !» Badra repart comme si de rien n'était. Moins chiffonné du moral que son petit short dont quelques diamants ont disparu dans le vide, ainsi qu'une large bande de cuir, révélant une peau sombre un peu rougie par le frottement contre le granit rugueux. Au sommet, les 2 filles admirent le paysage. Enfin, pas trop longtemps tout de même, car Badra a faim, faim du corps de l'aimé. Elle la ploie sur les lichens rares, la désosse de son harnais et de la ferraille qui lui ceint le buste, la dénude et se vautre dans ses odeurs sportives, la léchant littéralement des pieds à la tête. Sauvage Badra. Voilà, c'était le 2e extrait de Ayam, esclave des glaces. Et aux descriptions d'escalade et de montagne, on capte bien que Pierre Charmoz est un grand amoureux de la montagne. D'ailleurs, il a écrit des livres érotiques, mais il a aussi écrit des livres autour de l'escalade, et je crois même un polar avec de l'escalade. Enfin bon. Bref, voilà, voilà. Donc, mais si vous voulez découvrir la suite de ce livre, le 3e volet des aventures de Ayem, donc Ayem, esclave des glaces, vous pouvez vous l'offrir pour le tout petit prix Rikiki de 2,99€ sur le site sexy-musardine.com. Vous verrez, hein, il y a un petit peu de suspense, il y a le prince qui devient complètement fou, le plan du mari cocu et joyeusement cocu pour sauver sa femme. Je ne vous révèle pas tout, à vous de le découvrir en vous offrant ce livre. Et puis bah, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine a priori pour une nouvelle lecture érotique. Et si vous voulez réécouter les extraits de l'épisode 1 et 2 de IM, c'est sur mon site charlie-liveshow.com. Ciao, ciao, ciao. Passez une très très belle journée.